Chapitre 4. Le lendemain dès l'aube, vers les 4 heures, un coup de poing culbuta dans la chambre le battant de la porte. Réveillés en sursaut, Jacques et Louise virent, effarés, devant eux l'oncle Antoine debout dans une latrinière exhalaison de purin tiède. « Bon Dieu ! Fit-il, la bouteille passe. Quelle bouteille ? Eh, pardi, celle de la bête ! Que je vous dise, Norine a couru vers le village chercher le berger. Moi, je peux pas être partout à la fois, et j'ai crainte que la Lisarde ne vêle avant qu'ils aient monté la côte. Mais, dit Jacques en enfilant sa culotte, je ne suis pas sage-femme, j'ignore l'art de traiter la gésine des vaches. Aussi, je ne vois pas bien à quoi je pourrais vous être utile. Sida! Tant que ta femme allumera le feu et chauffera le vin pour la Lisarde, toi, tu pourras me donner un coup de main en attendant que Norine et François arrivent. » Louise fit un signe à son mari, puis « Je vous suis, dit-elle, allez devant que je m'habille. » En route, Jacques ne put s'empêcher de rire en contemplant la figure de l'oncle variolée de points noirs. « Mais ça, qu'avez-vous sur le visage ?» Le vieux cracha dans sa main, se la frotta sur les joues et l'examina. « Ben, c'est des chures. J'ai dormi la nuit dans l'étable et, ouais, il y en a, mon neveu, des mouches près du bestial. » Et il hâta le pas, arquant ses courtes jambes, rognonnant tout seul, râpant ses doigts sur la brosse de son menton, puis se grattant la tête sous son bonnet jambonné par les grâces. Quand il ouvrit la porte de l'étable, Jacques vacilla. Une corrosive touffeur d'alcali, traversée par des milliers de mouches, lui perça la vue d'aiguille et lui ténébra le sifflement en rang les douilles. L'étable, mal éclairée par une lucarne, était trop petite pour contenir ses 4 vaches serrées les unes contre les autres sur des litières empoicrées par d'excrémentielles tartes. « Ma pauvre Lisarde, ma pauvre bête !» gémissait le père Antoine en s'approchant de celle qui beuglait sourdement et le regardait la tête retournée de ses grands yeux vides. Et écartant à coups de souliers les autres, il caressa la Lisarde, lui parla bas ainsi qu'à un enfant, lui prêta des noms d'amoureuse, l'appela « ma fofa, ma fifille !» l'encouragea à supporter le mal joli, lui affirmant que si elle poussait bien, ça serait que l'affaire d'un moment, après quoi elle reprendrait sa taille. Tout en se frottant le crâne, il disait à Jacques « C'est qu'elle passe de plus en plus, la bouteille. Bon sang de bon Dieu, qu'est-ce qu'elle fout donc, Norine ? En attendant, je vais toujours préparer de la filasse pour tirer le veau. » Et tout en tordant ses écheveaux, comme la Lisarde continuait à meugler, il vanta, pour la réconforter sans doute, la sûreté de son affection et les qualités de ses pies. Suppose que tu la traies, mon neveu, eh ben, elle te donnerait à peine du lait. Et s'abandonne qu'avec Norine. Elle perd tout pour elle. Oh, dame, c'est point comme quand on aime point. Et elle est comme le monde, la Lisarde, elle aime ceux qui la soignent. Et les autres, c'est tout de même aussi comme elle. Et il désignait les 3 vaches qu'il interpella par leur nom. La Cybelle, la Barée, la Noire, qui regardaient d'un œil indifférent leurs camarades, mugissant maintenant, la tête levée vers la lucarne. « Je vais toujours y graisser la naissance, ça la soulagera, » pensa le père Antoine, qui versa de l'huile dans une assiette, puis relevant la queue avec une main, enduisit avec l'autre les génitoires enflammés de la bête. « Ah, te v'là !» dit-il en se retournant vers Louise qui arrivait. « Fais vite du vin chaud et prépare dans le seau avec du seau une bonne eau blanche. »« Mais qu'est-ce que t'as ?» Et voyant sa nièce pâlir, il grommela entre ses dents. « Sacrée femelle ! C'est seulement pas décidé à aider les hommes. » Louise blêmissait, car cette terrible odeur de l'étable lui chavirait le cœur. Jacques la soutenait à la porte lorsque des éclats de voix annoncèrent la tante Norine. « Ah ben !» cria l'oncle, qui ne s'occupa plus du malaise de sa nièce. « Ah ben, c'est pas tôt. Si vous n'êtes pas resté 2 heures, vous n'aurez pas resté une. Quoi donc que vous foutiez en route ?»« J'en verdais le plus que j'ai pu, mon homme !» fit le berger qui souleva sa casquette en voyant Jacques. Et il entra dans l'étable, assourdi par les piaillements de Norine, qui baisait sur les bajoues sa vache, dont les mugissements s'accéléraient en se prolongeant. Bon, j'ai idée que ça va y être, dit le berger, qui enleva son gilet à manches et recula sa casquette sur la nuque. Des formes pointues de pieds se dessinaient dans le ballon diaphane qui sortait de la vache. Le berger creva l'enveloppe, et les pieds apparurent, pas tout à fait crus, mais saignants comme ces pieds de mouton mal cuits, servis dans des restaurants aux prix infimes. Et Jacques, resté sur le seuil, vit les 2 hommes entrer sous le derrière de la vache, des bras nus et des mains enroulées de filasse, et tirer en sacrant, tandis que la bête ébranlait par ses beuglements l'étable. Bon, sort de bon Dieu, tiens bon, mon homme. Non, 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 va droit, c'est qui pèse le bougre. Et tout à coup, une masse gluante, énorme, déboula dans des éclaboussements de lochis et de glaire sur un tas préparé de paille, pendant que l'entaille rouge ouverte sous la croupe de la vache se refermait comme mue par un ressort. Nom de Dieu, tiens-le, oh le sacré Cosaque! Grondait l'oncle en bouchonnant le veau, qui tentait de se lever sur ses pattes de devant et lançait de tous les côtés des coups de hête. Norine entra avec un seau fumant de vin.
Vous n'avez pas mis d'avoine dedans? Demanda le berger.
Non, mon homme, c'est bas alors, parce que voyez-vous, ça échauffe. Du chêne-vie, si vous en avez, mais pas d'avoine.
Et l'on approcha le seau de la bête remis sur ses pattes et dont la vulve saignait des stalactites de morve rose. La lisarde lapa le vin d'un trait. Alors Norine s'agenouilla et se mit à la traire. Elle avait l'air de sonner les cloches et les mamelles fusaient sous ses doigts humectés par une goutte de lait et une boue jaune bouillonnée de mousse.
« Tiens, bois !» fit-elle à la vache qui avala en 2 coups de langue la purée de ses pies.
« Pour un beau veau, c'est un beau veau !» dit le berger en étanchant ses doigts avec un bouchon de paille. La tante Norine demeurait en extase, les mains tombées sur le ventre et jointes. La vache se mit à mugir.
Oh, ça t'a pas fini de gueuler comme ça, chabot, clama Norine.
Fous-y donc sur le museau à cette cobla, reprit l'oncle, qui s'essuyait le front d'un revers de manche.
Oh, il n'y avait plus de fanfan et de fifille, plus d'appellations amoureuses, plus d'encouragement à bien veiller. L'accouchement avait été des plus simples et le veau était né viable, en même temps que pour l'inquiétude pécuniaire, leur tendresse avait pris fin. Il ne s'agissait plus maintenant que de se reposer en buvant un verre.
Ils rentrèrent dans la cahute et Norine sortit de l'armoire la bouteille à potion qui contenait de l'eau-de-vie et elle emplit les verres. Tout le monde trinqua et les vida d'un coup. Puis Antoine se prit à causer avec le berger des délivrances célèbres dans le pays de certaines vaches.
Dis-y donc au neveu, François, combien qu'il a fallu d'hommes pour faire veiller la vache à Constant?
Oh, monsieur, fit le berger en se tournant vers Jacques, il en a fallu 8 et les hommes qui avaient du sang, allez. Ah, je peux dire que j'ai été outré de sueur ce jour-là.
« Oui, mon cher monsieur, j'ai dû, sauf votre respect, enfoncer mon bras dans le trou du cul de la bête pour y tournibuler le veau et le faire descendre par la naissance. Et c'est pas pour dire, mais il y a là comme séparation une peau qui est bien vétilleuse. »
Aussi, dit le père Antoine, t'es recommandé à la ronde, hein, comme un berger qui a de la connaissance.
Oui, et des fois que j'ai dit qu'il n'y a rien à faire, on peut aller chercher le vétérinaire de Provins. Il y a pas belle de s'en charger.
Au reste, il le sait, cet homme, car une fois venu, il a vite fait de cracher et de remonter dans sa carriole.
Ah ben, c'est temps, s'écria Norine en approuvant du chef.
Jacques regardait le berger tandis qu'il parlait. C'était un petit homme maigre, tortueux, un peu bancroche, avec un profil dur à la Bonaparte, et des yeux clairs qui riaient par instants et décelaient, avec un pli de la bouche rasée, une incurable ruse. Il avait au pied de ses chaussons de lisière, tressés, noirs et blancs, qu'on appelle dans ce coin de la Brie des bamboches, une chemise à raies bleues, un gilet à manches de lustrine noire, une culotte de velours à côtes, retenue par un ceinturon de cuir, en bandoulière une corde de fer blanc, et sur l'épaule un fouet.
« Allons un verre !» reprit Dorine.
Et de nouveau l'on trinqua. François s'essuya les lèvres d'un revers de main, et après quelques recommandations, il descendit en clopinant la côte. Alors, pressé de questions par son neveu, le père Antoine parla du berger. Il expliqua qu'il était maintenant riche.
« Ah, c'est que c'était là un beau métier !»
« Tiens, il achète un taureau de 2 ans, 400 francs, et il le revend 6 quand il a 4 ans. Et pendant ce temps-là, son Robin, qui est le seul dans le village, lui fait des rentes. »
Et il énuméra le profit, 2 francs par tête de vache, l'an, puis un boisseau de blé, de seigle, des œufs à la Pâque, un fromage mou, quand la vache vèle, du vin à la vendange. Et quoi qu'il a à faire, je te le demande, entretenir son Robin pour qu'il soit toujours vif, à conduire le bestial du village dans le pré et à soigner ses bobos quand il en a.
Ah oui, c'est un beau métier, reprit le vieux, en réfléchissant. François a maintenant sa suffisance.
Mais combien y a-t-il de vaches à la Jutigny?
« Bon, je compte qu'il y en a pour 225. »«
Et d'habitants ?»«
Ça va vers les 400, mon garçon. »
Il y eut un temps de silence. Louise et Norine revinrent de l'étable où la jeune femme s'était aventurée afin de voir le veau.
« Mais si tu savais comme il est gentil, dit-elle à son mari, crois-tu, il boit dans un verre. »«
Oui, en y ouvrant la gueule de force et il gigote, répondit la tante Norine, qui paraissait sans enthousiasme pour cette façon civilisée de boire.
« Ici, c'est pas souvent comme ailleurs, reprit le vieux d'un ton docte. On les laisse pas têter. »
On en perd plus, mais comme ça, ils suivent pas leur mère et ils broutent pas.
Il se mit à rire.
Tu te rappelles, Norine, le père Martin, le fruitier, qu'est là à Jutigny, pour manger son bien, ajouta-t-il en se tournant vers Jacques. Il se connaît pas malin parce qu'il revenait de Paris. Il comptait pas que le veau s'engraisse seulement avec du lait. Il me disait, hé, l'ancien, pourquoi donc que tu mets une cage d'osier au museau de ton veau? Et il ricassait quand je lui disais « Mais c'est mon homme pour qu'il mange pas de la verdure. » Eh ben, quand il a eu un veau qu'il a mené au marché de Bray, Agile lui a dit en soulevant la paupière de son veau qui était rouge « Mais c'est un bon républicain qui t'amène là, t'en faut au point. » Et tous les autres bouchers lui ont dit de même. Et il a encore son veau qui mangeait de l'herbe.
« Alors, demanda Jacques, il faut que le veau soit anémié et complètement déprimé pour qu'il se vende.
Ben, « Sans doute, mon garçon, sans ça, sa viande serait pas mangeable. »«
Mais il faut qu'il retourne à la graisse et qu'il ait plus de sang, » appuya sa femme.
« Tiens, on sort de la petite porte du haut, là-bas. C'est pas à se déranger, elle est ouverte. Il n'y a qu'à lui donner un coup d'épaule. »
Et en effet, après un choc, des pas s'entendirent. Jacques mit le nez dehors et aperçut un être bas du derrière, boiteux et replet. « C'est le facteur, » dit le père Antoine. « Ah ben, c'est temps !» L'homme était coiffé d'un immense chapeau de paille, entouré d'un ruban noir sur lequel était peint à l'huile en lettres rouges le mot « poste », et sur sa blouse en toile bleue à parements de drap garance, il portait une sacoche. Il salua en arrière, traîna les pieds, déposa sa canne et dit « C'est vous qui êtes, monsieur Jacques Marle ?»«
Oui. »
Il tendit une lettre et reboucla son sac. « Ben, j'ai idée que tu regretteras pas de prendre un verre, » dit Norine.
« Sûre, » fit-il.
« Et combien que t'en as bu des litres depuis que t'as commencé ta tournée ?» interrogea en riant le père Antoine.
« Bon, j'en ai point bu plus de 7. »«
7 ?» s'écria Louise. « Lui, oh, ma fille, oh, il en avale 10 sans être plus sous qu'à l'heure présente. » Le facteur eut à la fois une mine humble et satisfaite.
« Oui, mais c'est que je mange, » dit-il d'un ton modeste.
« T'entends, Louise, allez va, quand vous aurez du reste, il vous le touchera, il vous le torchera le temps de se servir, mais où donc que tu mets tout ce que tu m'offres ?»
L'homme haussa les épaules, et comme on lui apportait du pain et du fromage, il tira son couteau, se tailla une miche capable de rassasier tout un bivouac, mit dessus un peu de l'urinaire avari de ce fromage bleu, et engouffra le tout par bouchées énormes.
Entre-temps, la mâchoire pleine, les joues bondissant en un flux et en un reflux des deux côtés des tempes, il se plaignait de la longueur de sa tournée. Enfin, pour l'instant, le parcours était tout de même bon. Les propriétaires habitaient dans leur château. Ça allongeait souvent sa route, comme pour venir jusqu'à celui-ci, par exemple, mais il avait affaire à du bien brave monde, qui n'oubliait pas le facteur.
Jacques, plongé dans la lecture de sa lettre, leva le nez à cette amorce de pourboire, mais le facteur, dont les yeux brillaient et dansaient en quelque sorte dans leur capote sillonnée de rides, détaillait avec complaisance les bienfaits des riches. Là, chez le meunier de Tachy, il y avait toujours une bouteille et une croûte et souvent du fricot de la veille qu'on lui gardait. Au château de Sigy, c'était mieux encore. Le jardinier lui offrait de la salade et des fruits, et la dame veillait elle-même à ce qu'il mangeât un morceau et ne partît jamais le gosier sec. Tout le monde l'aimait, au reste, parce qu'on savait à qui l'on avait affaire, puisqu'en repartant pour Paris, l'on pensait à sa petite famille, car il avait 2 enfants, et c'est point dans le métier de facteur qu'on se fait du bien. Fatigué par ce verbiage, Jacques songeait, en repliant sa lettre, à ses tracas qui allaient croissant. Un ami qui s'était chargé de surveiller ses affaires dans la capitale lui écrivait une lettre inquiétante. Certitude maintenant affirmée de ne rentrer dans aucun fonds. Ses créanciers unis pour préparer la saisie de ses meubles. D'autre part, refus du crédit lyonnais d'escompter les billets qu'il espérait convertir en argent liquide. « Ça va mal, se dit-il. »« Allons déjeuner, » fit Louise qui l'observait. « Eh bien, » reprit-elle quand ils furent seuls, « que t'écris, Morand ?» Il lui passa la lettre et elle hocha la tête. « Combien d'argent avons-nous ?»«
Oh, pas beaucoup. 800 francs ou plus, car il y a déjà eu de la dépense. » Et elle ajouta en soupirant, « Et c'est pas fini. »
Elle entra dans des explications. Il avait fallu acheter d'abord pour 50 francs d'ustensiles de cuisine et de vaisselle. Il fallait se procurer encore des avances de café, de cognac, de sucre, de poivre, de sel,
de bougies, de charbon, toute une série d'achats difficiles à effectuer dans ce château perdu. Au reste, la question de la nourriture se compliquait, comme à plaisir. La bouchère de Savin, la seule bouchère qui exista dans le pays à la ronde, se refusait absolument, de même que toutes les autres commerçants d'ailleurs, à monter jusqu'à ce château, qui n'était pas situé sur leur route. De son côté, la femme qui vient le samedi de Provins avec des provisions de légumes, de poulet, d'œufs, la coquetière ainsi qu'on la nomme, déclarait ne pas vouloir éreinter son cheval à grimper la côte. Il n'y avait que le boulanger qui consentait à fournir le pain, et encore était-il convenu qu'il le déposerait en bas, à la porte du château, au bout de l'avenue, sur le chemin de Longueville, à 5 heures du soir. « Ce sera commode, » fit observer le jeune homme. « Lorsqu'il pleuvra, nous mangerons de la mie de pain étrempé, de la panade. » Mais nous achèterons un panier sur le couvercle duquel on mettra des pierres. Mais voyons, l'oncle Antoine mange aussi du pain. Que diable, il pourrait bien acheter le nôtre avec le sien. Oh, tu n'en voudrais pas. C'est Nord, il rapporte plusieurs pains à la fois, si bien qu'au bout de 5 ou 6 jours, c'est de la pierre. Tu en sais quelque chose du reste. Jacques eut un geste de découragement. « Quant au vin, poursuivit-elle, nous devons faire venir une feuillette de Bray-sur-Seine. L'oncle, dont la récolte a été maigre l'an dernier, s'offre d'ailleurs, si nous en avons de trop, à nous reprendre une moitié de la feuillette. Et elle coûtera, cette feuillette, 60aine de francs. » Jacques soupira. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il chantait, ton oncle, lorsqu'il assurait que nous trouverions tout ici en abondance? Ben, il ne savait pas. Il s'imaginait probablement que nous vivrions ainsi que lui, d'un peu de pommes de terre et de fruits. Le plus clair de tout cela, c'est qu'il va falloir chaque jour, et quelque temps qu'il fasse, trotter pendant 2 lieues dans la campagne pour trouver une côtelette et du fromage. Mais enfin, et Juvigny, et Longueville, il n'y a donc pas de commerçants dans ces trous-là? Non, c'est Savin qui les dessert. J'espère cependant, reprit-elle, que nous finirons par nous organiser, car la sœur d'Antoine, la vieille Armandine, connaît à Savin une famille pauvre, dont la petite fille ne va pas à l'école pour l'instant. Moyennant un prix à débattre, on enverrait l'enfant chaque matin ici. Nous lui donnerions les commissions et les rapporterait après son déjeuner, dans l'après-midi. Jacques commençait à croire que les économies réalisées à la campagne étaient un leurre, et que la solitude, si séduisante à évoquer, lorsqu'on réside en plein Paris, devient insupportable quand on la subit, loin de tout, sans domestique et sans voiture. Et il passait en revue les inconvénients déjà découverts de ce château. Voisinage menaçant de bêtes et d'hommes, humidité glaciale, manque de confortables et disettes d'eau, puis encore certains abandons qui l'indignaient. Il avait en vain cherché dans le labyrinthe de ses pièces les confessionnaux du corps, les pièces aménagées pour déverser ses fuyants secrets. Il avait fini, en bas, près de la chambre de la marquise, par découvrir un petit réduit, mais il était dans un tel état de décrépitude qu'on n'y pouvait sans péril entrer. Et c'était le seul. Il avait exprimé son étonnement à l'oncle Antoine, qui avait d'abord ouvert de grands yeux, puis avait regardé Norine. Elle trépigna de joie, se tapant sur les cuisses. « C'est-il donc que tu voudrais chier, mon neveu ?» dit-elle entre deux hoquets. « Mais on se pose dehors, où qu'on est, comme nous. » Cette simple façon de résoudre une question gênante exaspéra tout bonnement le jeune homme. Et il maugréa, pendant une partie de la journée,
qui s'écoula d'ailleurs sans qu'il s'aperçût de l'égouttement des heures. L'action sédative de la campagne le dorlotait encore, et il ne connaissait pas l'ennui de l'oisiveté qui se traîne dans des chambres ressassées ou devant des paysages déjà vus. Il en était toujours à la période d'engourdissement, à cette bienheureuse lassitude du plein air qui émousse l'acuité des tracas et baigne l'âme dans des sensations assoupies de syncope, dans d'inertes impressions de vagues. Mais si la tiédeur des matins agissait sur lui comme un remède parégorique, comme un calmant, le deuil refroidi du crépuscule dispersait, de même qu'au premier jour, cette tranquillité qui faisait place à d'incertains malaises et à d'imperturbables et confuses transes. Ce soir-là, après le dîner, il était descendu avec sa femme dans la cour du château, et, assis sur des pliants, il regardait, silencieux, le jardin fatigué se ramasser sur lui-même et s'endormir. Et bien qu'il éprouvât encore cette exvagation qui détachait son esprit de l'idée sur laquelle il le voulait fixer, il sentait sourdre dans cet automne d'âme les mystérieuses humiliations de la peur. Il contempla Louise. Mon Dieu, qu'elle était pâle! Il eut un frisson, car ses traits cernés décelaient la marche continue de la névrose, et il redouta les prochaines attaques de l'indomptable mal dans l'isolement de cette ruine. Et ce mal-être, presque douillet, qui résulte de l'impuissance à se commander, se changea chez Jacques en de nettes inquiétudes. Son esprit disséminé se rassembla sur sa situation et sur celle de Louise. Il recula dans ses souvenirs, remonta dans sa vie, se rappela les bonnes années qu'ils avaient égrenées ensemble. Il avait fallu pour l'épouser se fâcher avec sa famille, composée de négociants riches, indignés de la basse extraction de cette femme, issue d'une génération paysanne mal équarrie par la petite bourgeoisie d'un père. Il avait franchi ses haines, accepté sans regret une entière rupture avec ses parents dont il méprisait les appétits et les idées et qui ne visitait auparavant du reste qu'à de rares intervalles. Eux, de leur côté, le jugeaient fou, oui, bon, à rien. Mais pas encore fou, se disait Jacques, qui n'ignorait pas l'opinion de sa famille. Oui, c'était vrai, il n'était bon à rien, incapable de s'éprendre des occupations recherchées des hommes, inapte à gagner de l'argent et même à le garder, insensible aux appâts des honneurs et aux gains des places. Ce n'était pas cependant qu'il fût paresseux, car il avait d'immenses lectures, toute une érudition lointaine, mais éparpillée, ingérée, sensible précise, méprisable par conséquent pour les utilitaires et les oisifs. Cette question qu'il s'efforçait d'élaguer de ses préoccupations, la question de savoir à l'aide de quelle manigance il gagnerait désormais son pain, l'assaillait, plus térébrante et plus têtue, alors surtout qu'il suivait des yeux sa femme affaissée sur son pliant et sans doute torturée elle-même par d'analogues craintes. Il se leva et fit quelques pas dans la cour. La nuit maintenant venue déformait le vaisseau de l'église en face, qui passait par les nuances du noir très foncé, presque épaissi par des sujets d'ombre, aux endroits envahis par la lumière. Moins profond, plus délavé aux places nues des murs, clair encore dans le cadre des fenêtres dont les vitres et vis-à-vis paraissaient contenir une eau ténébreuse et trouble. Jacques contemplait cette fonte lente de la pierre dans l'obscurité, quand, du haut de l'église, un oiseau s'éleva, tel qu'un aigle, décrivit de ses ailes éployées une foudroyante parabole, et tomba avec un bruit sourd du ciel dans le bois où des branches froissées craquèrent. Mais qu'est-ce que cela ? Demanda Louise, qui vint se serrer contre son mari.
Mais c'est un chat-huant, sans doute, ces oiseaux pullulent dans le clocher de l'église. » Il prit sa femme sous le bras, ils se promenèrent dans le cour, saisis par le silence énorme de la campagne, ce silence fait d'imperceptibles bruits de bêtes et d'herbes qu'on entend lorsqu'on se penche. La nuit, devenue plus opaque, semblait monter de la terre, noyant les allées et les massifs, condensant les buissons épars, s'enroulant au tronc disparu des arbres, coagulant les rameaux des branches, comblant les trous des feuilles confondues en une touffe de ténèbres unique. Et presque compacte et dense, en bas, la nuit se volatilisait à mesure qu'elle atteignait les cimes épargnées des pins. Enfin, par-dessus l'église, le jardin, les bois, tout en haut dans le ciel dur, sourdaient les froides eaux des astres. On eût dit de la plupart des sources lumineuses et glacées, et de quelques-unes, qui ardaient plus actives, des geysers renversés, des sources retournées de lueurs chaudes. Il n'y avait pas une vague, pas une nue, pas un pli dans ce firmament qui suggérait l'image d'une mer ferme parsemée d'îlots liquides. Jacques sentait cette défaillance de tout le corps qu'entraîne le vertige des yeux perdus dans l'espace. L'immensité de ce taciturne océan aux archipels allumés de fébricitantes flammes le laissait presque tremblant, accablé par cette sensation d'inconnu, de vide devant laquelle l'âme suffoquée s'effare. Louise avait, elle aussi, fait évader sa vue dans ces lointains gouffres, suivant son mari dont l'œil adultéré par le mirage d'une vision fixe s'illusionnait, apercevant au hasard et à son gré, là où elle n'était même pas, les constellations aux couleurs vives, les astres lilas et jaunes de Cassiopée, Vénus à la planète verte, les terres rouges de Mars, les soleils bleus et blancs de l'Orion. Guidée par son mari, elle s'imaginait de son côté les voir. Et elle resta pantelante de cet effort, étourdie, lorsqu'elle rappela ses yeux devant elle, éprouvant dans l'estomac comme une angoisse qui fluait jusque dans ses jambes devenues incertaines et molles, ressentant l'exacte impression d'une main qui la tirerait avec lenteur intérieurement de haut en bas. « Je ne suis pas bien, » dit-elle, « rentrons. » Et derrière le château, à son tour, la lune surgit, pleine et ronde, pareille à un puits béant, descendant jusqu'au fond des abîmes et ramenant au niveau de ses margelles d'argent des seaux de feu pâle. Chapitre 5. C'était au-delà de toute limite, dans une fuite indéfinie de l'œil, un immense désert de plâtre sec, un Sahara de lait de chaux figé, dans le centre duquel se dressait un mont circulaire gigantesque, aux flancs raboteux, troués comme des éponges, mi-cassés de points étincelants, comme des points de sucre à la crête de neige dure et vidés en forme de coupe. Séparé de ce mont par une vallée dont le sol ras paraissait pétri d'une boue racornie de cérus et de craie, une autre montagne lançait à des hauteurs prodigieuses une cime d'étain semblable à un entonnoir. L'on eût dit de cette montagne, travaillée ou repoussée, ballonnée d'énormes bosses, d'une colossale vague écornée du bout, bouillie au feu d'innombrables fournaises, et dont la globuleuse ébullition, soudain comprimée, était demeurée en se congelant d'un coup intacte. « Il est certain, pensa Jacques, que nous sommes en plein océan des tempêtes et que ces deux monstrueux calices tendus vers le ciel sont les sommets cratériformes du Copernic et du Kepler. « Non, je ne me suis pas trompé de route, se dit-il, contemplant le lait glacé de cette surface presque plane, devenu renflé,
torruleuse seulement alors qu'on s'approchait du pied d'un pic. Avec une sereine certitude, il s'orienta. Là-bas, vers le sud, ce qui apparaît vaguement tel qu'un grand golfe, c'est la mer des humeurs. Et ces deux effroyables chancres qui en gardent l'entrée, ce sont à n'en point douter le mont Gassendi et la gare Tarchite. Et, souriant, il songea que c'était tout de même un bien singulier pays que la Lune, où il n'y a ni vapeur, ni végétation, ni terre, ni eau, rien que des rocs et des coulées de lave, rien que des cirques stratifiés et des volcans morts. Et puis, pourquoi l'astronomie avait-elle conservé ces noms inexacts, ces qualifications surannées et bizarres, dont les vieux astrologues ont baptisé des enfilades de plaines et de monts? Il se tourna vers sa femme, assise et hypnotisée par cette blancheur, lui expliqua en quelques mots qu'il serait imprudent de s'aventurer dans le midi de cet astre, car c'est là que se trouve la zone volcanique, l'agglomération des cratères éteints, des sierras empiétant les unes sur les autres, des cordillères se couchant presque et laissant à peine courir entre leurs pieds de rugossantes qui semblent taillées dans des tranches de calcaire ou percées dans des pins de blanc de plomb. Il l'aida enfin à se lever. Elle l'écoutait, scrutant ses lèvres, comprenant ses paroles, mais ne les entendant point, puisqu'aucun milieu atmosphérique ne pouvait propager le son dans cette planète dénuée d'air. Et tournant le dos au paysage qu'il contemplait, ils remontèrent vers le nord, longèrent la chaîne des Carpates, franchirent le défilé de l'Ariatarche, dont les pitons se profilaient, barbelés comme des queues d'écrevisses dentelées comme des peignes. Ils avançaient facilement, glissant plutôt qu'ils ne marchaient, sur une sorte de glace givrée, au-dessous de laquelle apparaissaient de vagues fougères cristallisées, dont les nervures et les côtes brillaient ainsi que des sillons de vif argent. Ils s'imaginaient se promener sur des taillis plats, sur des arborisations laminées, étalées sous une eau diaphane et ferme. Ils débouchèrent dans une nouvelle plaine, la mer des pluies, et là encore, en se postant sur une éminence, ils dominèrent un paysage, fuyant à perte de vue, hérissé par des Alpes de plâtre, cabossé par des Etnas de sel, gonflé de tubercules, boursouflé par des kystes, scorifiés tels que du mâche-fer. Et de même que sur un plan stratégique, des hauteurs immenses, d'innombrables Chimborazo, pouvaient balayer la plaine. Le Lair et le Pythéas, le Timocharis et l'Archimède, l'Autolius et l'Aristille, et au nord, presque aux confins de la mer du Froid, près du golfe des Iris, dont les bords en rocaille s'incurvent sur le sol lisse, le mont Plateau crevait, formidable, la croûte disloquée des laves, à plusieurs lieues, dressait des perches de stuc et des mâts de marbre, descendait en rouleau géant d'albâtre, dégringolait en masses de roc blanc, perçait le trou comme des mâts de répor, luisant comme des fonds de crible. Mais l'on eût dit que tout cela s'éclairait seul. La lumière paraissait s'irradier en montant du sol, car là-haut le firmament était noir, d'un noir absolu intense, parsemé d'astres qui brûlaient pour eux seuls, sur place, sans épandre aucune lueur. Au fond, l'Aristie ressemblait à une ville gothique avec ses pics, les dents en l'air, coupant de leurs scies le basalte étoilé du ciel. Et derrière et devant cette ville, deux autres cités se superposaient, mêlant au Moyen-Âge d'une Heidelberg l'architecture mauresque d'une Grenade, enchevêtrant les uns dans les autres dans un tohu-bohu de pays et de siècles, des minarets, des clochers, des aiguilles et des flèches
des meurtrières et des créneaux, des mâchicoulis et des dômes. Trinité monstrueuse d'une métropole morte, autrefois taillée dans une montagne d'argent, par les torrents d'ignition d'un sol. Et en bas, toutes ces villes se découpaient en ombre d'un noir cru, en nombre de 2 lieues de long, et stimulaient un amas d'instruments de chirurgies énormes, de scies colosses, de bistouris démesurés, de sondes hyperboliques, d'aiguilles monumentales, de clés de trépan titanesques, de cloches à venteuses cyclopéennes, toute une trousse de chirurgie pour Atlas et Encelade, déchargée pêle-mêle sur une nappe blanche. Jacques et sa femme restaient stupides, doutaient de la lucidité de leur vue. Ils se frottèrent les yeux, mais dès qu'ils les rouvrirent, la même vision les confondit d'une ville gouachée d'argent sur un fond de nuit, et projetant avec les dessins hérissés des ombres les exactes formes d'instruments ténébreux épars avant une opération sur un drap blanc. Louise prit le bras de son mari, redescendit dans la plaine, et tournant à leur droite, ils s'engagèrent dans le vallon qu'encaissent d'une part le Tibocaris et l'Archimède, et de l'autre les Apennins, dont les pics l'Ératosthène et le Huygens élèvent leur ventre de bonbonnes qui s'émincent peu à peu et se terminent en des cols de bouteilles au goulot débouché et cerclé de cire blanche. « C'est tout de même étrange, » dit Jacques. « Nous voici parvenus au marais de la putridité. Mais c'est pas un marais, il ne sent rien. Il est vrai que l'océan des tempêtes est parfaitement sec et que la mer des humeurs, qu'on devrait se figurer grasse tel qu'un lac de plus, ne puait tout bonnement une exorbitante assiette de faïence craquelée, liserée de filets gris par les laves. Louise ouvrait le nez, humait le manque d'air. Non, aucune odeur n'existait dans ces marais de la putridité. Nulle exhalaison de sulfure de calcium qui décela la dissolution d'une charogne. Nulle fumée de cadavre qui se saponifie ou de sang qui se décompose. Aucun charnier, le vide, rien, le néant de l'arôme et le néant du bruit. La suppression des sens, de l'odorat et de l'ouïe. Et Jacques détachait en effet du bout du pied des blocs de pierre qui dévalaient en roulant de même que des boules de papier sans aucun son. Ils avançaient avec un pénible entrain. Ce marais cristallisé, tel qu'un lac de sel, ondulait, grêlé comme par une variole géante, criblé de marques rondes aussi larges que ces bassins construits à Versailles sous le règne du grand roi. Par places, de fictifs ruisseaux zigzaguaient, striés par la réfraction d'on ne savait quoi, le fil du gris violacé, des iodes par d'autres, d'inauthentiques canaux rejoignaient le faux étang qui se teignait du rouge malsain des bromes. Et par d'autres encore, d'inguérissables plaies soulevaient de roses vésiculeux sur cette chair de minerai pâle. Jacques consultait une carte qu'il conservait pliée dans la poche d'un vêtement de fabrication anglaise, qui ne se rappelait pas voir jusqu'ici porté. Cette carte, publiée à Gotha par les soins de Justus Perth, lui semblait d'une indiscutable clarté, avec ses masses pointillées, ses détails en relief, ses dénominations latines, lacus mortis, palus putredinis, oceanus procellarum, empruntées à la vieille mappa Selenographica de Beer et de Mariner, dont elle n'était au demeurant qu'une copie réduite. Voyons, se disait-il, nous avons le choix entre 2 chemins, ou descendre le détroit formé par les bords de la mer de la Sérénité et le col du mont Aemus, ou remonter par le défilé du Caucase jusqu'à la lisière du lac des Songes et
redescendre en suivant les montagnes du Taurus jusqu'au Janssen. Ce dernier chemin paraissait être le plus facile et le plus large, mais il allongeait de milliers de lieues l'itinéraire qu'il s'était tracé. Il résolut de se faufiler par les sentiers de l'Aïmus, mais il butait avec Louise à chaque pas, entre deux murailles d'éponges lapidifiées et de coques blancs, sur un sol verruqueux renflé par des bouilloires durcies de chlore. Puis ils se trouvèrent en face d'une sorte de tunnel, et ils durent se quitter le bras et marcher l'un après l'autre dans ce boyau pareil à un tube de cristal dont les tailles allumées ainsi que des pointes de diamants éclairaient la route. Subitement, la voûte s'exhaussa, s'engouffrant dans une cheminée de hauts fourneaux, bouchée à son sommet, à des distances incalculables au-dessus d'eux, d'un rond de ciel noir. Non, nous arrivons, murmura Jacques, car cette ouverture, c'est le pic creux du Ménélos. Et en effet, le tunnel prit fin. Ils débouchèrent près du cap Aricusia, non loin du mont de Pline, dans la mer de la tranquillité, dont les contours simulent la blanche image d'un ventre scillé d'un nombril par le Janssen, sexué comme une fille par le grand V d'un golfe, fourche de deux jambes écartées de pieds beaux par les mers de la fécondité et du nectar. Ils s'avancèrent rapidement vers le mont Janssen, laissant à leur gauche le marais du sommeil, teinté de jaune comme une mare coagulée de bile, et la mer des Crises, un plateau concréfié de boue, du verdâtre laiteux des jades. Ils escaladèrent des talus escarpés et s'assirent. Alors un extraordinaire spectacle se déroula devant eux. À perte de vue, une mer furieuse roulait des vagues hautes comme des cathédrales et muettes. Partout des cataractes de bave caillées, des avalanches pétrifiées de flots, des torrents de clameurs aphones, toute une exaspération de tempêtes tassées, anesthésiées d'un geste. Cela s'étendait si loin que l'œil dérouté perdait les mesures, accumulait des lieues sur des lieues, sans à peu près possible de distance et de temps. Ici, de sédentaires maelstroms se creusaient en d'immobiles spirales qui descendaient en d'innombrables gouffres en léthargie. Là, des nappes indéterminées d'écume, de convulsifs Niagara, d'exterminatrices colonnes, d'eau surplombait les abîmes, aux mugissements d'endormis, aux bonds paralysés, aux vortex perclus et sourds. Il réfléchissait, se demandant à la suite de quel cataclysme ces ouragans s'étaient congelés, ces cratères s'étaient éteints, à la suite de quelle formidable compression d'un verre avait été enrayé le mal sacré, l'épilepsie de ce monde, l'hystérie de cette planète, crachant du feu, soufflant des trompes, se cabrant, bouleversé sur son lit de lave. À la suite de quelle irrécusable abjuration, la froide Sélénée était tombée en catalepsie dans cet indissoluble silence qui plane depuis l'éternité sous l'immeuble ténèbre d'un incompréhensible ciel. Mais de quels effrayants germes étaient donc issus ces monts désolés, ces Himalayas aux corps calcinés et creux? Quels cyclones avaient tari ces pacifiques et scalpé les végétations inconnues de leurs bords? Quels déluges supposés de flammes, quels éclats disparus de foudre avaient scarifié les corps de cet astre, tracé des rainures plus profondes que des lits de fleuves, causer des fossés dans lesquels auraient pu couler à l'aise 10 brames à poutre. Et plus loin encore, plus loin, émergeaient du cercle des horizons devinées d'autres chaînes de montagnes dont les interminables pics effleuraient le gouffre de nuit du ciel couvercle seulement posé sur les pointes des clous des cimes, en attendant qu'un surnaturel marteau l'enfonçât d'un coup pour clore hermétiquement l'indestructible boîte. Joujou d'une titane immense, d'une géante enfantine et énorme, en fatigue boîte contenant des simulacres en sucre de tempête et de plaine, des rocs en carton et des volcans creux dans le creux desquels l'enfant de Polyphème pouvait enfoncer son petit doigt et soulever ainsi dans le vide la colossale ossature de ce jouet inouï. La lune épouvantait la raison, terrifiait la faiblesse humaine. Et maintenant, Jacques ressentait cette lourdeur du bas-ventre, cette contraction de la vessie qu'entraîne l'angoisse prolongée du vide. Il regarda sa femme. Elle était calme, et de son binocle qui ne bougeait point, elle consultait, ainsi qu'une Anglaise étudie son guide, la carte qu'elle tenait dépliée sur ses genoux. Cette quiétude et cette évidence d'avoir près de soi, de pouvoir toucher, s'il le voulait, un être manifeste et vivant, apaisèrent ses transes. Ce vertige qui lui tirait les yeux hors des paupières et les amenait lentement vers le fond d'un gouffre, s'évanouissait maintenant que sa vue se reposait à deux pas sur une créature connue dont l'existence était sensée et sûre. Puis il se sentait sous ses habits, vide comme ces monts tubuleux, sans entrailles de métalloïdes, sans cœur de roc, sans veines de granit, sans poumons de métaux. Il se sentait léger, presque fluide, prêt à s'envoler si les vents inconnus de cet autre venaient à naître. Le froid exaspérait les pôles et les consternantes canicules des équateurs se succédait sans transition autour de lui, sans même qu'il s'en aperçût, car il éprouvait l'impression qu'il était enfin débarrassé de l'écorce temporaire d'un corps. Mais l'horreur se révélait soudain, aussi dans ce monde désert, de ce silence de tombe, de ce glas muet. L'agonie tourmentée de la lune couchée sous la pierre funéraire d'un ciel l'affola. Il leva les yeux pour fuir. Regarde donc, dit ingénument sa femme, voici qu'on allume. En effet, le soleil à ce moment rasa les cimes dont les crêtes déchirées s'irradièrent comme un métal en fusion de flammes blanches. Des lueurs rampaient tout le long des pics, au centre desquels le cône du Tycho fourmilla, terrible, ouvrant une gueule de feu rose, faisant grincer ses dents de braise, aboyant sans bruit dans l'impermutable silence d'un firmament sourd. Oh, c'est plus beau, comme vu, que la terrasse de Saint-Germain, reprit Louise d'un ton convaincu. Mais sans doute, fit-il, surpris lui-même de la sottise de sa femme, qui lui était jusqu'alors apparue moins abondante et moins ferme.